Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Back from Build 2014. Je m'appelle Sébastien Pertuis, je fais partie de l'équipe des évangélistes techniques de Microsoft France et je suis aujourd'hui en compagnie de Mathieu Mézy. Salut Mathieu.
Salut Sébastien.
Alors Mathieu, vite fait, une petite présentation.
Donc je suis consultant chez Infinity Square, donc on est un peu un full player Microsoft et pour ma part j'ai une expertise sur Entity Framework, C Sharp et la métaprogrammation.
Et la métaprogrammation, d'accord, super. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui tient à cœur, qui est Roslyn.
Exactement.
Ok. Alors, juste un petit préambule avant d'attaquer le vif du sujet. Beaucoup de choses ont été annoncées pendant la bulle, hein. Notamment le fait qu'on a la convergence entre Windows et Windows Phone, l'ouverture avec .NET Foundation, qui est quelque chose qui est assez spectaculaire chez Microsoft, le partenariat avec Xamarin. Et l'apparition de Roslyn en tant que compilateur open source, qui a été présenté d'ailleurs par Anders pendant la plénière et qui a suscité un gros buzz, si on peut dire. Donc globalement, Roslyn, on en a beaucoup parlé, mais c'est quoi ?
Alors donc Roslyn, l'idée de base c'était de dire voilà, ils avaient deux compilateurs, le compilateur VB et le compilateur C Sharp.
C'est historique tout ça.
Donc voilà, exactement. Donc quand on voulait implémenter une nouvelle feature, il fallait refaire dans les deux, c'était un peu pénible. Donc l'idée c'était de factoriser les éléments, mais également d'exposer un certain nombre d'API qui sont d'habitude les API du compilateur aux développeurs. Et donc on a notamment dans Roslyn deux parties qui sont très importantes, qui sont ce qu'on appelle le syntax tree, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'arbre syntaxique de code, donc l'ensemble de ce que constitue le code, mais de façon typée. C'est pas une chaîne de caractères, hein, Roslyn a déjà compris pour nous. Et puis également la sémantique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avec le syntax tree, par exemple, il va être capable de me dire, ta méthode, elle retourne un type personne. Mais par contre, avec la sémantique, je vais pouvoir voir que ce type personne a été défini dans telle assemblée, qu'il a tel et tel élément, enfin, un peu les infos qu'on aurait par réflexion, par exemple. Et donc ça marche sur l'ensemble des nœuds du syntax tree. Donc on a vraiment beaucoup d'infos qu'on va pouvoir exploiter.
Alors c'est cool parce que du coup, finalement, on a un compilateur, mais en plus, c'est un compilateur qui est dans notre service, sur lequel on va pouvoir, utiliser pour encore améliorer notre productivité.
Exactement.
Et avoir des nouveaux scénarios, finalement, de développement qu'on n'adressait pas aujourd'hui.
Tout à fait. D'ailleurs, au début, le code, non-code, c'était compiler as service. En fait, ça a été changé parce qu'ils avaient un peu peur que finalement, on pense à Azure à cause du as service.
D'accord.
Et donc, du coup, d'où le nom de Roslyn, finalement, qui a été utilisé à la place.
D'accord. Et la grosse nouveauté, c'est qu'en plus, c'est open source.
Exactement. Ça, c'était un peu la surprise annoncée à la build. Et qui est quelque chose d'assez intéressant dans lequel Microsoft s'inscrit aujourd'hui de façon de plus en plus importante à travers SPNet MVC, mais enfin plein de projets qui sont open source, Entity Framework également.
Ok. Bon, après, du coup, la question qui se pose assez logiquement, c'est pourquoi faire, pour qui, globalement, à quoi ça sert, Roslyn ?
Donc, du coup, il y a plein de scénarios différents. D'abord, pourquoi faire, à partir du moment où c'est le compilateur, maintenant C Sharp, en future version de C Sharp, et le prochain VB seront compilés avec Roslyn, on va dire tout le monde utilise un compilateur. Donc c'est un peu le schéma qu'on a ici, c'est-à-dire que ça va toucher du coup des millions d'utilisateurs. Et puis potentiellement, après on peut avoir ce que Microsoft appelle des partenaires, c'est-à-dire des personnes qui vont exploiter ce que j'ai les API tout à l'heure de Roslyn pour développer du tooling ou des extensions au niveau Visual Studio.
On restreint déjà un petit peu. Le scope, là,
exactement. Donc là, c'est ce qu'ils évoquent, quelques milliers. Et puis ensuite, quelques dizaines, c'est les personnes qui travaillent réellement sur le compilateur, donc C Sharp et VB. Et puis le fait que ça soit maintenant open source, ça ouvre effectivement d'autres horizons. Ça élargit scope. On a vu d'ailleurs sur la démo d'Anders que Xamarin, après, utilisait Roslyn et pouvait également en profiter et puis pouvait enrichir, etc.
D'accord. D'ailleurs, du coup, un exemple qui a été montré pendant la bulle, justement pendant la plénière par Anders, c'était finalement de pouvoir modifier un peu l'idée de Visual Studio et de pouvoir réinterpréter une syntaxe. Alors, pour la petite histoire, il a en direct réinterprété la syntaxe du double quote à la française. Et à partir du moment où on a Roslyn qui est derrière, Visual Studio, lui, n'était pas perdu, il a bien compris ce que c'était.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il a étendu le compilateur C Sharp. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile maintenant grâce à Roslyn. Par contre, il faut quand même faire attention. Et justement, Anders, il est un peu craintif par rapport à ça. C'est le fait que d'une part, on est énormément de compilateurs différents C#, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et puis l'autre aspect également qu'il faut faire attention, c'est les PDB. Parce que ajouter de nouvelles features dans le compilateur, c'est facile. Par contre, mettre à jour les PDB, c'est un peu plus compliqué. Donc si on n'a pas les PDB, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de debug, ce qui est peut-être un petit peu embêtant. Alors je sais que toi, typiquement, tu ne fais jamais de bug, donc tu n'as pas besoin effectivement de lancer un debug. Mais pour certains développeurs, ils ont peut-être besoin effectivement d'avoir ça.
Bon, ça c'était un exemple globalement, mais après, dans la vraie vie de tous les jours, on s'en fout un peu de réimplémenter la syntaxe.
Exactement.
Qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter vraiment dans la vie de tous les jours?
Il y avait la démo justement qui a été faite par Matt Stogarsen et Dustin Campbell où ils montrent qu'on peut enrichir l'IDE de Visual Studio avec notamment des fonctions de factorisation, de gestion des erreurs, etc. Maintenant, finalement, à moins de vouloir redévelopper ReSharper, etc., enfin, ça, je suis pas certain que ça va toucher énormément de monde. D'accord. Par contre, après, il y a d'autres options qui sont possibles, d'autres scénarios qui sont possibles. Et justement, c'est ce que je vais te présenter maintenant, avec notamment moi, le projet sur lequel qui me tient à cœur, qui s'appelle Wax, et qui exploite justement ces fonctionnalités de Rosine.
Donc, juste pour la faire assez simple. Donc Wax, c'est un projet sur lequel tu as beaucoup travaillé et qui permet finalement d'aider le développeur en injectant du code, en comprenant le code qui est écrit par le développeur pour justement injecter du code à la compilation côté serveur et côté client. D'accord. Et tout ça, tu l'as fait grâce à Roslyn finalement.
Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, ça apporte beaucoup d'abstraction sur la façon de développer. Et donc, clairement, j'exploite pleinement Roslyn pour pouvoir faire ce genre de choses.
Ok. Bah, du coup, tu vas faire une petite démo alors.
Exactement. Donc, alors pour gagner un peu de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé déjà à l'avance une solution dans laquelle j'ai deux projets. Alors, un projet qui était web empty, et puis un projet WPF. Bon, ça peut être Windows 8 ou Windows 8, j'ai un truc PCL, donc il n'y a pas de problème.
Donc, l'idée là, c'est de faire un client-serveur, c'est d'implémenter du code côté serveur et de voir comment faire pour l'implémenter côté client.
Alors, tu peux avoir des features, l'utiliser juste en surcouche d'Entity Framework. Par exemple, j'ai des clients qui font de la ASP.NET MVC, c'est ce qu'ils font. Okay. Mais après, effectivement, l'idée de base, en tout cas, c'était plus dans un scénario 3 tiers et avec donc du WPF, comme je disais, du Windows 8, du Windows 8. Mais également, j'ai des clients qui utilisent iOS et Android avec justement Xamarin.
Super.
En faisant ça. Donc là, grosso modo, l'idée de base, c'est de dire finalement le code métier, quand on est surtout sur les trois tiers, c'est un peu compliqué parce qu'on a tendance à devoir le dupliquer. Parce qu'on va avoir que ce soit des propriétés calculées ou des règles de validation, on va les mettre potentiellement côté client et côté serveur. Donc on peut utiliser par exemple des PCL pour faire ce genre de choses. Mais bon, à un moment donné, on pose un peu la question, finalement, est-ce que ça vaut le coup d'implémenter property change sur le serveur, par exemple, ou alors, dans certains cas, il y a des choses qu'on va faire que côté serveur, parce qu'on a besoin du contexte, entity framework, pour accéder à la base, puis d'autres qu'on va faire côté client et côté serveur. Et puis, on a, de toute façon, des doublons qu'on va avoir avec, notamment, Link. Donc, je vais te faire une petite démo. Donc, alors, juste pour revenir, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, quand j'ai créé mes deux projets, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé mon package NuGet, donc de Wax Server, qui m'a rajouté une commande PowerShell que j'ai exécutée juste derrière, ici. Et puis, j'ai fait exactement la même chose côté client.
D'accord.
Donc, c'est tout. Okay. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle classe. Donc, ça va être mon ViewModel. Donc là, du coup, sur ce ViewModel, une des premières utilisations qu'on peut faire de Roslyn, et on a fait quelques-uns à Infinity Square, c'est faire du tooling. Et donc, pour ça, moi, ce que j'aime bien, c'est intégrer finalement Roslyn dans une console app qui va être intégrée dans un package NuGet. Et ensuite, je vais développer des commandes pour appeler justement cette console app. Et donc là, typiquement, ici, voilà, je vais pouvoir, donc avec l'IntelliSense, dire je veux me créer mon ViewModel et l'associer à ma main window XML.
D'accord.
Okay, j'exécute cette commande. Hein. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rajouté des using, il m'a rajouté du code à ce niveau-là. Et puis, dans le main window XAML.cs, il m'a intégré le ViewModel dans le constructeur. Et puis, il l'associe comme data context. Et puis, ça va être injecté ensuite par Unity.
D'accord.
Donc là, maintenant, le point.
Par contre, si jamais ta ViewModel existait déjà, est-ce que ça ne va pas juste écraser ce qui a été fait? Ou est-ce que...
Non, justement, c'est vraiment l'idée. Et c'est pour ça que j'utilise Roslyn. Je pourrais bêtement, on va dire, prendre, dire voilà le texte. à mettre. Okay. Par contre, moi, ce que je veux, c'est analyser finalement le code existant. Et ensuite, avec Rosdin, j'analyse ce code existant. Il y a une classe dans Rosdin qui est le syntax writer, qui permet de modifier un syntax tree, donc en fait de modifier du code.
D'accord.
Et donc, du coup, je vais comme ça pouvoir rajouter un paramètre dans mon constructeur, pouvoir rajouter juste une instruction qui va être le fait de l'affecter comme data context, mais sans toucher au reste du code.
Super.
Donc du coup, comme ça me permet de l'enrichir sans prendre le risque d'écraser finalement ce qui avait été fait par ailleurs. Donc voilà. Donc ensuite, un des points justement que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'aspect avec Link. Alors je vais pas m'embêter, je vais juste faire un copier-coller. Hop. C'est pas très compliqué, mais on gagne un peu de temps, vu que le temps est précieux. Concrètement, qu'est-ce que je fais ici? Je fais une simple requête qui va récupérer les orders dont le total, par exemple, est supérieur à 10 000. Donc ça, tu vas me dire finalement quel lien avec Rosdin. En fait, l'idée, c'est de dire la partie sur la propriété, enfin calculée totale en fait d'un order, potentiellement va être amené à le dupliquer parce que j'ai envie potentiellement quand je vais éditer un order de pouvoir afficher son total, donc je vais me créer une propriété totale. Le problème c'est que je peux pas exploiter cette propriété totale parce que Link to Entities me dit désolé mais ta propriété totale moi je la connais pas, je l'ai pas dans mon modèle. D'accord. Donc on a cet aspect là, donc du coup on va être obligé de le dupliquer potentiellement à chacune des requêtes où on voudrait exploiter ce total. Et puis, de la même façon, si je veux intégrer un autre point qui est important, c'est également tout ce qui est property change, où d'ailleurs, on va être obligé encore de redupliquer finalement notre logique pour pouvoir d'ailleurs gérer le système de property change. Si je change une quantité, si je rajoute un order detail, etc., il faut que le total de mon order soit rafraîchi, donc du coup, que je balance un property change sur la propriété totale de mon order. Et donc, du coup, tous ces aspects-là font que si tu veux changer ta règle métier, il va falloir que tu repasses dans plein d'endroits de ton code pour pouvoir justement le mettre à jour.
D'accord. Et donc toi, tu vas nous montrer comment faire pour factoriser tout ça.
Exactement. Donc c'est vraiment l'idée. Donc là, du coup, côté serveur, en fait, il m'a créé un répertoire spécification. C'est un emplacement par défaut. Ici, je vais me créer... Je ne sais pas où est mon truc. Voilà. Je vais me créer une classe Northwind spécification. OK. Donc ça va être une classe statique. Et puis dans cette classe, ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui intégrer deux petites extension méthodes, voilà, comme ceci. Donc getAmount, getTotal, d'accord. Donc en fait, WAG se base sur des conventions, donc ça commence par get, c'est une extension méthode sur une entité, donc du coup je vais générer finalement une propriété calculée qui
d'accord.
correspond.
Donc là, globalement, tu es en train d'implémenter du code côté serveur, et à la compilation, Rosdin va lire ce code, va le comprendre et va me permettre de l'appeler côté client.
Exactement. Donc en fait, là ici...
Et en plus, il va se charger de l'intégrer dans Link to Entity pour pas que moi j'ai besoin de le faire.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une surcouche effectivement Entity Framework pour gérer ça. Et donc on va exploiter en fait ce code qui est donc très simple, qu'on a écrit pour générer finalement l'ensemble des éléments côté client et côté serveur pour éviter les doublons. Donc bien sûr les doublons on va les avoir, mais simplement nous on l'a écrit qu'une seule fois, et donc si je veux le mettre à jour, il me suffit de modifier ce code là et puis ensuite de régénérer le code de ma solution.
D'accord. Et encore une fois, comme Rosdin comprend ce code, il est capable de régénérer correctement au bon endroit sans forcément écraser ce que tu avais déjà fait.
Exactement.
Ok.
Donc là, je suis en train de régénérer l'ensemble des éléments. Donc, du coup, suite à ça, effectivement, il va me rajouter une propriété amont sur order detail et une propriété totale sur order. Ces propriétés, je vais être capable de les exploiter dans mes requêtes link to wax côté client. Ou également link, enfin j'ai une version provider link côté serveur. L'autre aspect qui est important, c'est également les property change, comme on disait tout à l'heure, puisque là, en fait, on peut regarder le code, on peut voir que amount dépend de quantity et dépend de unit price et dépend de discount. D'accord. Donc ça, avec Rosdin, on est capable justement de le déterminer, de déterminer l'ensemble des dépendances, et donc justement de générer pour nous toutes les property change qui sont associées.
D'accord.
Donc on n'a pas besoin non plus de se soucier de cet aspect-là.
Donc du coup, dès qu'il voit une quantité ou un prix qui a changé, il sait qu'automatiquement le total a changé lui aussi, et donc il va déclencher un property change.
C'est exactement ça.
Ok, super.
Et donc là, maintenant, du coup, au niveau de mon client, ce que je pourrais faire, c'est lui dire ici, Total, toi, qu'ici j'ai une propriété Total maintenant.
Donc cette propriété-là, tout à l'heure, elle n'existait pas.
C'est non,
juste
exactement.
Parce que Rosslyn te l'a générée pour
exactement,
toi.
Il me l'a générée à partir de mon extension method okay. qu'il a analysé.
Il a vu un get amount total, il génère la propriété qui est derrière.
Exactement. Okay. Et donc là, du coup, on peut faire ça. Ou par exemple, si je voulais récupérer ben, par exemple, l'ensemble des orders avec leur total, mais sans charger les orders detail, ce que j'ai également la possibilité de faire à la place, c'est d'appeler une méthode withTotal, qui a été une fois de plus générée à partir justement des spécifications, du code qu'Origin a analysé. Et donc là, du coup, si...
Rosine, tu as donné la possibilité, et toi, avec Wax, tu as généré cette propriété withTotal.
Exactement. Okay. Et après, en fait, ce que je fais, c'est que je vais gérer toute la partie expression côté serveur, mais ça, c'est, on ne va pas rentrer en détail à ce niveau aujourd'hui. Je vais juste me mettre ça, c'est bon. OK, donc je compile.
Donc là, du coup, il n'y a pas du tout de, il y a pas de réflexion, il n'y a pas de
non,
choses qui sont complètement...
Non, c'est le côté qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas effectivement
très, très
de
pertes. Gérer.
Voilà, on n'a pas de pertes au niveau de l'exécution. C'est pas fait au runtime, c'est vraiment compilé. D'accord. Et l'autre aspect qu'il y a, c'est comme c'est du code, en fait, c'est pas le compilateur qui va faire ce code-là, mais c'est généré avant. On a vu que j'ai tapé une commande pour générer le code. Donc, du coup, je vais avoir les PDB. D'accord. Donc, ce qui va me permettre de débugger. Alors, bien sûr, le code généré, pas le code que j'ai écrit moi, hein, mais par contre, malgré tout, de pouvoir avoir le débug.
D'accord. Donc, une expérience utilisateur qui est quand même beaucoup plus agréable.
Exactement.
Okay.
Et donc là,
on n'a pas l'impression d'utiliser une boîte noire.
Exactement, c'est ça. Et puis, en plus, c'est open source, Wax, donc de même que Rosin. Okay. Donc, on a effectivement, et on l'a sur Nuget. Donc là, si on regarde du coup ce que j'ai dans test, là, on peut s'apercevoir que donc j'ai bien mes orders. Mm-hmm. Sur les orders, je n'ai pas d'order detail. Si on regarde ici ma quantité, tu vois qu'il y en a zéro. Oui. Par contre, il a bien récupéré le total. Donc la propriété totale, elle est bien renseignée parce que ça a été calculé. Et d'ailleurs, si on regarde la requête SQL qui a été générée, on s'aperçoit qu'effectivement, on a bien intégré derrière la logique de la somme à ce niveau-là.
D'accord. Donc un gros gain en productivité.
Ouais.
En plus, une expérience de débugage qui est plutôt adéquate parce qu'on peut débugger ce qui a été généré. Ouais. Pas du tout cet aspect de boîte noire. Mm-hmm. Un gain en performance parce que c'est vraiment compilé à la demande,
ouais.
puisque c'est compilé la première fois que tu génères le code. Mm-hmm. Et pas de perte de performance à cause de la réflexion ou quoi que ce soit.
Ouais. Donc, et puis, il y a un gros gain également sur la maintenabilité, puisqu'une fois de plus, j'ai écrit mon code qu'une seule fois. Le code que j'ai écrit est très simple. Donc, j'ai d'autres scénarios qu'on ne va pas présenter ici, mais qui permettent de montrer qu'effectivement, on peut, à partir d'un code très simple, générer quelque chose de très compliqué. Et donc, du coup, ça permet de se concentrer finalement sur ce qu'est de la valeur pour l'utilisateur final, à savoir le métier, et puis bon, également le UI, etc. Mais sans soucier tout l'aspect plomberie, l'aspect technique, d'accord. en fait, qui lui est intégré et généré par Wax.
Super, très bien. Merci Mathieu pour cette présentation de Wax. Et merci aussi de tes éclaircissements sur Rosslyn. Et nous, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.